16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. 2 heures d'histoire, le sourire aux lèvres. Sauf bien sûr les jours où l'humidité grimpe et où la sciatique de Stéphane le lance. Hier par exemple, vous avez peut-être trouvé le début de l'émission un peu poussif. Normal, il était tout rouillé. Alors, on est prêt?
Attends, je me remonte un peu.
Remonte-toi un peu.
Oh, on dirait une vieille dame.
Bon ben, j'arriverai pas à me remonter.
Bonjour Stéphane. Est-ce que vous êtes opérationnel aujourd'hui? On peut y aller, c'est bon?
Au moins autant que vous, espèce de petite crapule. Mais en plus, j'ai pas votre âge, moi.
Vous êtes plus jeune que moi, Stéphane?
Beaucoup plus âgé.
Ah oui, d'accord.
Bonjour Mathieu, bonjour. C'est pas bien de se moquer des personnes âgées.
C'est pas
bonjour
bien.
Mathieu, bonjour à tous. Moi qui voulais vous faire plaisir avec notre thème du jour, conçu pour vous plaire.
Elles ont fait tomber la robe.
Bon, pas vraiment. C'est pas vraiment au sens où vous l'entendez, Mathieu, puisqu'aujourd'hui, on réunit des nonnes qui ont renoncé à la robe de bure, évidemment.
Ah oui, je suis moins excité, du coup.
J'imagine. À commencer par Catalina de Arauzo, une jeune nonne espagnole qui, dès l'âge de 15 ans, a choisi de s'enfuir du couvent. Elle a fait tomber la robe pour mettre un pantalon de garçon. Et elle a troqué la vie paisible auprès de Jésus pour prendre les armes. Un incroyable destin. Tout comme celui d'Alexandrine de Tencin, qui a aussi passé ses années de jeunesse dans un couvent. Intrigante, nonne, défroquée, salonnière, elle tenait en effet un salon littéraire. Mère du philosophe Jean d'Alembert, qui a écrit l'Encyclopédie, je vous raconterai sa folle vie. Quant à vous, Mathieu, c'est aussi une incroyable histoire que vous nous contez cet après-midi, celle d'Isabel et Federica.
Oui, deux nonnes qui aimaient beaucoup Jésus, mais qui, à force de se fréquenter, ont fini par se dire que c'était un peu con, cette histoire de chasteté et de célibat, quand même. Alors, elles n'ont pas fait les choses à moitié, elles se sont mariées en 2016. Je viens juste de recevoir le faire-part, mais la poste italienne, vous savez ce que c'est.
Oui. Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. C'est bien votre histoire de nonne, là. Je me demandais ce que vous alliez pouvoir trouver de contemporain.
C'est
parfait.
Oui,
mais vous connaissez mon esprit de contradiction. Alors, puisque vous avez choisi des femmes qui abandonnent la robe, eh bien moi, j'ai choisi un homme qui, lui, a dû la vie sauve au fait d'enfiler la robe de sa femme.
Ah, j'ai eu peur. Oui, oui.
Oui, c'est le célèbre monsieur de Lavalette qui s'enfuit de prison en se déguisant en femme.
Et puis David Castel-Lopez qui remonte aux origines d'une mode, d'une histoire, d'un objet.
Et aujourd'hui, c'est un personnage de merchandising qui s'appelle Hello Kitty.
Ah oui, tous les enfants adorent.
Voilà,
oui.
Ce petit chat aux yeux écarquillés, et je vous raconterai les origines.
Ça marche encore, ça?
Ça marche infiniment bien.
Ah oui, Hello Kitty.
Ouais.
Qu'est-ce qui marche aussi? C'est le poulet frit. Hein. Bon, bien avant Hello Kitty, déjà.
Le poulet frit.
Le poulet frit.
Non,
oui. C'est le poulet frit aujourd'hui.
Oui,
aujourd'hui. Pose bonjour.
Ouais, et qu'on ne confondra pas d'ailleurs avec les nuggets, hein, rien à voir. Le poulet frit, d'où vient-il? Il est popularisé évidemment par une figure américaine bien connue. Mm. Mais est-ce bien lui qui aurait inventé cette recette?
Mais nous le saurons.
Oui. Et tout se passera finalement formidablement bien pour Stéphane dans cette émission, jusqu'à ce que retentisse cette musique qui signalera qu'il est l'heure de jouer à Burn to be Alive.
Et tout se passera formidablement bien pour Mathieu, jusqu'à ce que retentisse cette musique en toute fin d'émission qui signalera l'heure de jouer à la lutte finale, un quiz que pour l'instant, je le rappelle, Mathieu n'a remporté qu'une seule fois.
Oui, mais avançons, ces statistiques n'intéressent pas nos auditeurs. Tout de suite, découvrons plutôt notre première femme qui a tombé la robe. Stéphane nous raconte la nonne Catalina de Arauzo.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en l'an 1600 dans le Pays Basque, au nord de la très catholique Espagne. Entre les murs du couvent des sœurs dominicaines de la ville de San Sebastián, une jeune fille s'ennuie. Elle s'appelle Catalina de Arauzo et a souvent fait montre d'un caractère quelque peu rétif face aux règles de la vie monacale. Une vie rythmée par la prière, le travail et le silence, alternant aussi inexorablement que les nuits succédant au jour. Et les jours sont longs pour Catalina depuis qu'elle a été placée auprès des religieuses, comme il en était d'usage à l'époque pour les dernières nées de bonne famille. Elle avait 4 ans lorsqu'elle entra au couvent, elle en a désormais 15 et son noviciat arrive à son terme. Bientôt, elle prononcera ses vœux définitifs et sera nonne à vie. Est-ce l'idée de demeurer cloîtrée jusqu'à la fin de ses jours qui va pousser Catalina à prendre sa vie en main ? Ou une énième altercation avec une sœur violente qui a fait office de déclencheur ? Toujours est-il qu'en cette nuit du 18 mars 1600, Catalina de Arosso fait un choix qui va bouleverser sa vie. À minuit, le couvent se réveille pour la prière des matines. La tante de Catalina, prieure auprès de l'abbesse, l'envoie chercher un bréviaire dans sa cellule. Au mur, Catalina se saisit d'un trousseau de clés. Ce ne sont pas encore les clés de Saint-Pierre ouvrant le paradis, quoique ce sont les clés de la liberté. Se disant malade, Catalina est autorisée à ne pas assister à l'office et profite que toutes les sœurs soient occupées pour ouvrir une à une les portes qui la séparent du monde extérieur. La dernière enfin franchie, elle se retrouve dehors. Comme elle l'écrira dans ses mémoires, elle se lance alors dans la rue sans l'avoir jamais vue. Son premier réflexe est de se cacher dans un bois à la sortie de la ville pendant 3 jours afin d'y préparer la suite. Et c'est peu dire que la suite sera plus excitante que la vie au couvent. Ayant pris soin d'emporter avec elle du fil et des aiguilles, Catalina fait de sa robe de novice un habit masculin, se coupe les cheveux et se crée une nouvelle identité, celle d'un homme, Francisco Loyola. Le meilleur moyen, selon elle, d'échapper à la vie qu'elle vient de fuir. C'est en garçon qu'elle découvre la liberté et c'est en homme qu'elle vivra sa vie. Catalina, ou plutôt Francisco, parcourt les villes du Pays Basque puis de l'Espagne en profitant de sa bonne éducation. Elle sait lire, écrire, compter, parle parfaitement le castillan et même le latin pour trouver des places au service de familles aisées. Ses pérégrinations la mènent à Séville, où son goût de l'aventure s'aiguise au point qu'à 18 ans, elle embarque sur un galion. Destination Carthagène des Indes, l'Amérique. Arrivée dans ce qui est de nos jours la Colombie, Catalina s'engage dans une succession d'aventures dignes de romans picaresques en vogue à son époque. À travers la vice-royauté du Pérou, entité de l'Empire espagnol qui couvre alors la quasi-totalité de l'Amérique du Sud, Catalina est tantôt commerçant ou soldat, se nomme tantôt Francisco Loyola ou Alfonso Díaz Ramírez, et son tempérament viril et fougueux s'affirme. Dans les tripots et les tavernes, elle est en permanence mêlée à des rixes qui se terminent en duel et ne cesse d'oxyre ses adversaires à coups de dagues ou d'épées. Elle est par conséquent en permanence pourchassée par la justice et prend pour habitude de se réfugier dans les églises qui lui accordent le droit d'asile avant de partir pour de nouvelles contrées. La vie de Catalina de Arosso est en réalité une fuite permanente. À croire qu'elle s'évertue à créer du grabuge ou qu'elle n'a vraiment pas de chance, dès qu'elle arrive quelque part, elle se retrouve mêlée à des méfaits ou accusée d'un forfait, le plus souvent d'un meurtre. Quand elle n'est pas, selon ses dires, totalement étrangère à ses crimes, elle prétend ne faire que répondre à l'agressivité des autres et des altercations s'achèvent souvent de la même façon. Elle sort l'épée et son adversaire finit par gésir dans son sang. Elle s'enfuit ou s'en sort toujours, parfois même la corde au cou, grâce à des relations et à la solidarité de la communauté basque dans le Nouveau Monde. L'armée constitue également un moyen de fuir autant que d'assumer une agressivité belliqueuse toute masculine. Pour ne pas dire une cruauté, elle qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants des peuplades amérindiennes et à transformer des villages en ruisseaux de sang gros comme une rivière, ce sont ses mots. Passant d'une ville à l'autre, d'un champ de bataille à un combat en duel, Catalina de Arosso trafique, tue, blesse et malverse sans répit. Elle tue même par inadvertance, certes, son propre frère à qui elle avait caché son sexe et sa véritable identité. Peu de temps après, elle brille au combat contre les Indiens Mapuche et obtient le grade d'Alfares, dont elle tirera le surnom par lequel elle devint célèbre, la Monja Alfares, la nonne lieutenant. Après moult péripéties dont nous ne pouvons ici compter tous les détails, Catalina se retrouve aux alentours de 1620 dans la ville de Guamanga, actuelle Ayacucho au Pérou. Bien entendu, elle tue à nouveau, elle est traquée, blessée et se retrouve finalement emprisonnée chez l'évêque local. Il semble que cette fois, ni protecteur au placé, ni concitoyens basques ne pourront la sortir de ce mauvais pas. Mais Catalina, ou Alfonso comme vous préférez, a plus d'un tour dans son sac. Alfonso Catalina est donc aux arrêts chez l'évêque de Guamanga après avoir tué un fâcheux. Oui, encore. Apparemment émue par la bonté du saint homme et certainement consciente que son sort de meurtrier, maintes fois condamné à mort, est désormais scellé, Catalina décide de dire toute la vérité. Elle est une femme. Elle a fui sa condition de religieuse en Espagne et parcourt depuis 20 ans l'Amérique du Sud sous une apparence et une identité masculine. L'évêque, probablement éberlué, est néanmoins touché par son récit. Alfonso est certes un tueur sanguinaire, mais il est une femme religieuse qui plus est, et indéniablement pure comme l'atteste rapidement la vérification de sa virginité. L'évêque lui offre donc sa protection. Catalina n'a plus à craindre la justice des hommes et se retrouve en sécurité dans un couvent de Guamanga, puis de Lima. Ironiquement, l'état religieux qu'elle avait fui est cette fois celui qui la sauve. Après que l'on ait vérifié à Saint-Sébastien que Catalina n'avait pas encore prononcé ses vœux définitifs, cela prit tout de même plus de 2 ans, elle est libre de partir et rentre en Espagne en 1624. Elle y est déjà célèbre. Des pièces de théâtre racontent son histoire et toute la bonne société est curieuse de rencontrer la nonne-lieutenant. Elle obtient une entrevue avec le roi Philippe IV, se voit octroyer une rente à vie pour service rendu à la couronne et rencontre même le pape à Rome qui lui accorde le droit officiel de porter le costume masculin qu'elle arbore fièrement sur les portraits réalisés par les peintres de son temps. Nous ne savons que peu de choses du reste de sa vie car son autobiographie, à l'authenticité douteuse et contestée, s'arrête peu de temps après son retour en Europe en 1626. La légende avait de toute façon déjà pris le relais de son vivant. Catalina finit par repartir en Amérique sous le nom d'Antonio de Rosso et meurt vraisemblablement au Mexique vers 1650. Des auteurs du XIXe siècle ont fait ressurgir le souvenir de cette incroyable vie faisant de Catalina de Rosso une véritable icône. Et que tout soit véridique ou non dans le récit de ce destin hors norme importe finalement peu, tant Catalina de Rosso demeure un exemple de la capacité à se saisir de sa propre existence.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Catalina de Rosso, nous sommes avec l'historien Bernard Lavallée. Bonjour Bernard.
Bonjour Bernard Lavallée, vous êtes professeur émérite de civilisation hispanico-américaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et l'auteur de l'ouvrage « Amazon, Saintes et Rebelles, l'histoire éclipsée des femmes de l'Amérique espagnole » paru aux éditions Vendémiaire, et parmi elles, évidemment, Catalina de Rosso. Ce qui fascine d'abord dans l'histoire de Catalina, c'est sa détermination à échapper au destin qu'on voulait lui imposer, mais au fond, quelles étaient les perspectives d'avenir pour les femmes en Espagne au début du XVIIe siècle, surtout quand elles étaient les cadettes ou les benjamines d'une famille noble désargentée?
Eh bien, évidemment, les possibilités d'avenir pour les femmes espagnoles à l'époque étaient fort limitées. Elles étaient celles que décidaient leurs parents, leur famille, leur père, puisqu'on était dans un système de patriarcat sans faille. Et je crois qu'effectivement, la détermination de Catalina était à la mesure de la force qui du cadre dans lequel elle était enfermée. Et je dirais que le fait qu'elle ait été religieuse, du moins novice, était en quelque sorte le cas le plus fort de cet enfermement dans lequel se trouvaient les femmes à cette époque, dans ce pays, mais dans d'autres pays européens aussi.
Bernard Lavallée, au moment où Catalina de Rosso gagne l'Amérique, où en est la conquête espagnole entamée un siècle plus tôt ?
Alors, la conquête, à proprement parler, est pour l'essentiel terminée. L'ensemble des territoires qui vont constituer l'Empire d'Amérique sont sous l'autorité espagnole, à l'exception de régions marginales qui sont situées aux deux extrémités, en quelque sorte, de l'Empire, c'est-à-dire dans l'extrême nord mexicain et dans l'extrême sud sud-américain, c'est-à-dire au Chili. Et précisément, c'est dans cette région que Catalina va exercer, si j'ose dire, ses talents de soldat contre les Mapuches, sa biographie qui a été rappelée l'a dit, et en quelque sorte elle participe aux dernières campagnes de cette conquête dans une Amérique qui va bientôt se figer dans sa structure définitive.
Mais c'est pas un hasard si Catalina décide de se rendre en Amérique, parce que qu'est-ce que le Nouveau Monde représentait pour elle?
Alors je crois crois que le Nouveau Monde représentait pour elle ce qui représentait pour beaucoup de personnes, hommes et femmes, en Espagne à l'époque, c'est-à-dire c'était le monde de tous les possibles. Et c'est la raison pour laquelle on voit partir vers l'Amérique des hommes, mais aussi des femmes, qui vont chercher en Amérique ce que l'Espagne dans laquelle ils sont nés, et dans laquelle ils ont jusque-là vécu, ne leur offre pas, ou ne peut leur offrir. C'est-à-dire une nouvelle vie, de nouvelles possibilités, une nouvelle identité, un nouveau métier, et dans le cas de Catalina, un nouveau sexe aussi.
Bernard, vous racontez Catalina de Arezzo dans votre livre. Elle a fait elle-même le récit de ses aventures à un moment où le roman picaresque est très à la mode. Est-ce qu'on dispose d'autres sources d'époque qui relatent les aventures de cette non-soldat, ou bien on doit lui faire confiance?
Alors, effectivement, on a une biographie, je dirais biographie entre guillemets, de Catalina, dont on n'est pas sûr qu'elle soit véritablement l'autrice, mais à laquelle elle a sans doute participé. Mais il y a aussi d'autres éléments véritablement historiques que cela qui permettent de dessiner son parcours. Et il y a des documents de témoins, de gens qui l'ont connue. Il y a aussi son dossier, le dossier qu'elle a établi pour avoir une pension militaire. Et là, c'est un document qui ne peut être mis en doute, bien entendu. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que dès que son cas, en quelque sorte, est connu en Espagne, il va être utilisé par la littérature, par le théâtre et par la nouvelle. Et très rapidement, on ne sait plus, dans le cas de Catalina de Arezzo, si on est dans la littérature ou véritablement dans l'histoire.
Si Catalina a choisi de se travestir pour apparaître en homme, c'est évidemment pour échapper à sa condition féminine qui, en Espagne, lui laissait peu de possibilités. On a beaucoup de récits sur des femmes qui, comme elle, ont changé leur apparence pour gagner en liberté.
Alors, on n'a pas d'histoire aussi connue que celle de Catalina, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres cas exceptionnels, mais quand même significatifs. Par exemple, celui de Feliciana Enriquez de Guzmán, qui, pour pouvoir aller à l'université, ce qui était impossible pour une femme à l'époque, s'était travestie en homme durant les années durant lesquelles elle avait étudié. Il y a un autre cas, un peu différent, mais assez curieux, celui d'une religieuse, Sor Maria de San Antonio, qui était galicienne et qui est connue en Espagne sous le nom de la nonne moine, car si elle était effectivement religieuse, et si elle était religieuse l'essentiel de sa vie, elle a aussi passé 5 ans dans un couvent franciscain.
Stéphane l'a rappelé dans son récit, vous le racontez vous dans votre livre, Bernard, au moment où Catalina regagne l'Espagne, le pape Urbain VIII l'autorise à se travestir, ce qui est tout à fait exceptionnel, d'autant qu'elle devait être nonne. Pourquoi tant de laxisme, me souffle Stéphane qui est choqué.
Oui, alors cette question est intéressante parce qu'elle pose le problème central. Catalina était-elle nonne? Catalina avait été mise, comme cela a été dit, avait été mise par ses parents au couvent très jeune, vers 4-5 ans, et elle avait passé donc une enfance et une adolescence que connaissaient beaucoup de jeunes filles de l'Espagne de cette époque, c'est-à-dire qu'on les mettait au couvent avec à l'issue une alternative, ou bien on leur trouverait un mari et elle reviendrait dans ce qu'on appelle dans le siècle, ou bien elle serait conduite à prononcer leurs vœux. Or, dans le cas de Catalina, elle n'avait pas prononcé ses vœux définitifs, donc elle n'était pas à proprement parler, et d'un point de vue juridique, nonne, donc elle ne pouvait pas être sanctionnée par les autorités ecclésiastiques, et la décision papale, qui peut étonner, donc juridiquement se comprend, mais de l'autre côté, est sans doute aussi le résultat de l'image que ce personnage avait réussi à construire autour de lui, et par conséquent, c'est un peu en tenant compte de cet aspect que la papauté avait pris la décision dont il est question.
Mais à aucun moment dans l'histoire de Catalina, il n'a été question de lui trouver un mari. D'ailleurs, visiblement, on a fait une enquête approfondie pour prouver qu'elle était Vierge.
Effectivement, avant qu'elle reparte d'Amérique vers l'Espagne, mais la question ne s'est jamais posée. Elle ne s'est jamais posée parce que, manifestement, au travers de sa biographie et d'une vingtaine d'années à ce moment-là, Catalina avait toujours eu une attitude masculine, un habit. Et une attitude masculine, donc le problème de son mariage ne se posait pas.
Et est-ce qu'on a des éléments sur sa vie amoureuse ?
Alors, les éléments que l'on a sur sa vie amoureuse tiennent à la fois à sa biographie, mais surtout aux textes qui ont surgi autour et au théâtre. En fait, et on le comprend étant donné ce qu'était l'organisation des sexes dans l'Espagne et l'Europe de l'époque, il est fait allusion plusieurs fois au fait que ses qualités, son physique, séduisent des jeunes femmes. Mais il n'est pas dit que, disons, elle prenait l'initiative en la matière, mais par contre, il est bien souligné que ses qualités viriles, avec ou sans guillemets, rendaient un certain nombre de femmes très sensibles à leur attrait.
La figure de Catalina de Arroso est aujourd'hui reprise par les mouvements féministes d'Amérique latine. Qu'est-ce qui plaît tant chez cette héroïne du XVIIe siècle ? C'est sa liberté, c'est...
Alors, ce sont deux choses. C'est sa liberté, comme vous le voulez dire, et c'est la transgression réussie. Effectivement, aujourd'hui, l'image, la figure de Catalina est reprise dans un certain nombre de pays d'Amérique parce qu'elle a vécu en Colombie où elle est arrivée, mais surtout au Pérou, au Chili. Donc c'est un personnage qui en quelque sorte appartient à une aura, une image, une valeur continentale. Et dans le cas de Catalina, les normes qui sont imposées ou qui étaient imposées et qui sont peut-être encore imposées aux femmes.
Merci beaucoup Bernard Lavallée. Pour tout savoir sur ces femmes de l'Amérique espagnole, je conseille aux auditeurs la lecture de votre ouvrage Amazon, Saintes et Rebelles, paru aux éditions Vendémiaire. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h
sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais se dérober. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une drôle d'évasion, celle du comte de la Valette, qui lui a bien fini par se dérober, justement.
Oui, absolument, mais avouez que c'était vraiment tentant, là, c'est alors que vous évoquez ces femmes qui quittent la robe, de citer un homme qui, lui, doit sa liberté au fait d'en avoir mis une. Elle est assez connue, cette histoire du comte de la Valette, d'évasion, bien sûr. Hein. C'était un ancien officier, aide de camp de Napoléon pendant la campagne d'Italie, la Valette. Il l'a suivi absolument partout. Il était en Égypte, à Malte, à Corfou. Et donc, quand Bonaparte accède au pouvoir, il en fait un conseiller d'État et il en fait son directeur général des postes. Il sera même la Valette en charge du fameux cabinet noir, le bureau de la censure. Mais évidemment, ça n'a qu'un temps, l'Empire, et quand arrivent les 100 jours et la perspective de la restauration monarchique, eh bien, la Valette est arrêtée chez lui le 18 juillet 1815, traduit devant une cour d'assises pour conspiration et usurpation de fonction, et il est condamné à mort le 20 novembre 1815. Bon, on lui laisse pas beaucoup de temps, il est censé être exécuté un mois plus tard, le 21 décembre, et il est emprisonné à la conciergerie. Pendant ce temps-là, comme on dit de nos jours, son épouse désespérée ne reste pas inactive. Bon, c'est une femme d'une certaine trempe, hein. Elle s'appelle Émilie de Beauharnais, c'est une nièce de Joséphine. Elle est passée comme toutes les petites jeune femme de l'époque, je vous en ai souvent parlé dans des chroniques ici même par l'école de Madame Campan. Donc c'est une jeune fille bien élevée, construite, déterminée. Elle l'a épousé la Valette alors qu'elle n'avait que 17 ans. En fait, c'est un petit peu un mariage arrangé par Bonaparte qui voulait remercier la Valette de l'avoir suivi dans toutes ses campagnes, en particulier dans la campagne d'Italie. Et donc, Émilie de Beauharnais, elle va se démultiplier pour essayer d'obtenir la grâce de son mari. Louis XVIII lui prête à peine attention. Au moment même où tout ça se déroule, elle est enceinte de leur deuxième enfant. Et elle va accoucher d'un enfant qui ne survit que quelques jours. Donc, faut imaginer son état moral. Son mari va être exécuté, elle est enceinte, elle accouche seule, elle perd son enfant. Bon, donc c'est maintenant, seule reste l'énergie du désespoir. Elle n'a absolument plus rien à perdre, elle ne peut compter que sur elle et elle se décide à agir. Alors le 20 décembre 1815 à 18h, on est à la veille de l'exécution de Lavalette, elle se présente à la conciergerie accompagnée de sa fille Joséphine et là, bon alors on pleurniche, on mange le dernier repas du condamné, bon, elle se cache, les deux se cachent derrière un paravent. Lavalette met les habits de sa femme, se coiffe de son grand chapeau à plumes. D'ailleurs, malgré le tragique de la situation, leur fille unique voit son père dans cet accoutrement, ça la fait plutôt sourire. Et puis, ça y est, on quitte les lieux. Le gardien s'efface sur leur passage, parce que les deux femmes sont là un petit peu voûtées, éplorées, étouffant leurs sanglots dans leurs mouchoirs. Il y a cinq gardes avant d'avoir franchi la porte de la prison, mais ils sont tous quand même attendri par cette femme. Ils savent que demain, son mari sera exécuté. Ben oui. Évidemment, elle est consternée. Donc, on ne va pas trop aller chipoter et contrôler. Bon. Donc, elle, sans précipitation, il a dû lui en falloir un sang-froid. Tout doucement, accoudé avec... Enfin, sans doute en prenant sa fille sous le bras, il sort de la conciergerie. Non, pas... Je pense que là vu la gravité de la situation, il a pas dû être pris de fou rire. Et non. Et donc, Émilie, pendant son arrêt dans la cellule, à la sortie, une chaise à porteur attend Lavalette. Le gardien regarde derrière le paravent et là, que voit-il ? Émilie en culotte d'homme, les gardes se précipitent, rattrapent la chaise à porteur. Dedans, il n'y a plus que Joséphine. L'oiseau s'est envolé. Et Joséphine, elle retourne tranquillement à son couvent. Grâce à ses amis, Lavalette va se cacher à Paris une dizaine de jours, puis s'enfuir en Belgique, déguisée en officier anglais. Puis ensuite en Bavière. Et il résidera en Bavière jusqu'à ce que Louis XVIII le gracie en 1822. Hélas, sa malheureuse femme, elle est emprisonnée quand même un mois. Hein. Elle venait d'accoucher.
Elle s'est sacrifiée.
Ah ben, elle a sauvé la vie de son mari, mais écoutez, c'est quand même grave ce qu'elle a fait. Elle a fait évader un condamné à mort. On l'a traité extrêmement durement. En tout cas, voilà une femme qui a manifester un courage insensé, mais là, tout à coup, elle s'effondre complètement. Les émotions liées à la captivité et à la condamnation de son mari l'ont rendue complètement folle. Elle avait une sorte de folie de la persécution. Elle était convaincue d'être traquée. Et même quand elle a été libérée, elle allait aux Tuileries pour demander la grâce de son mari, qu'elle croyait encore à la conciergerie. Et ben, son mari a quand même été absolument remarquable, parce que quand il est revenu en France, il s'est occupé d'elle avec dévouement, alors qu'elle était devenue complètement dingo, jusqu'à sa propre mort, lui, en 1830. Et Émilie va quand même lui survivre assez longtemps. Elle est morte en 1855. Mais jusqu'à sa mort, elle n'a pas cessé de revivre constamment cet événement. La perte de sa raison a été le prix de son sacrifice. Et dira Louis XVIII dans cette affaire, seule Madame de Lavalette a fait son devoir. Figurez-vous que Lavalette est enterrée au Père Lachaise. Vous avez déjà vu sa tombe, Stéphane ? Parce qu'il y a une plaque sculptée qui représente Monsieur de Lavalette en train d'enfiler les vêtements de sa femme, Émilie. C'est rigolo quand même. Enfin, c'est rigolo. C'est une plaque mortuaire, mais c'est quand même étonnant de penser qu'on a mis ça dans le marbre. Et évidemment, l'histoire offre bien d'autres exemples de femmes qui firent évader leur mari. Et en 70, il y a Pépita Bazaine qui fait évader son mari depuis la mer en barque avec une échelle de corde. Il y a évidemment Lucie Aubrac qui a fait évader son mari pendant la guerre. Et puis, plus près de nous, bien sûr, Nadine Vaujour. Le 26 mai 86, son mari s'évade de la santé grâce à sa femme en hélico. Vous vous souvenez de ça ? Vous étiez trop petit. Elle avait pris des leçons de pilotage sous un faux nom et elle a quand même fait évader son mari. Donc, vous voyez, c'était ce qui était un coup, là aussi, d'une audace absolument folle. Donc, vous voyez, pour Émilie de Lavalette, Pépita Bazaine, Madame Aubrac et Nadine Vaujour, eh bien, c'est... Toujours, on en revient toujours là, messieurs. Hein. C'est l'amour qui leur a donné des ailes.
Oui. Et puis c'est toujours la femme qui se débrouille pour faire sortir le mari.
Chapeau, hein.
Dans l'autre sens,
le contraire a dû exister aussi. Le comte de Valais est seul à avoir enfilé la robe.
Oui, ça c'est sûr.
Chercherai de vous trouver des histoires équivalentes côté messieurs.
Oui,
est-ce que des messieurs ont fait évader leur femme
Je pose la question.
Merci beaucoup, Clémentine.
Restez avec nous, Clémentine. Le quiz arrive. Je crois que vous avez remporté la dernière édition. À quoi ça va se jouer aujourd'hui ?
Je ne sais plus, ça devient lassant.
Il y a en tout cas des questions sur les Mésopotamiens. Ça va être un beau moment.
C'est notre point fort à tous les deux.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque jour à la même heure, le studio Coluche prend des allures de saloon. Nos deux cow-boys de l'histoire s'apprêtent à dégainer dans le quiz qui les oppose. D'un côté, le dangereux Calamity Byrne, enfin dangereux surtout pour lui. De l'autre, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Cruelle mais torride.
Jouons à Byrne to be alive. Notre célèbre quiz, Stéphane, la première question est pour vous. J'aimerais commencer ce quiz avec un hommage. Léon Béton a déposé entre 1867 et 1891 plusieurs brevets où il est question d'un système de construction à base de fer et de ciment. C'est l'inventeur du béton armé, du ciment armé, qui donnera plus tard le béton armé. Nous en avons parlé dans cette émission, Stéphane, hein,
ça,
l'invention du béton armé.
L'inventeur du béton s'appelle pas Béton.
Il s'appelle pas Béton parce que David Cassel-Lopez nous a raconté l'histoire du béton armé.
Et vous vous en souvenez?
Oui, et il n'a jamais été question de monsieur Béton.
Il n'a pas un nom germanique, ce monsieur? Non,
alors,
pas, non.
Mais comment s'appelle l'inventeur du béton, alors, si vous êtes...
Bon, non, c'est...
Non, c'est vrai, non, mais vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'est une question qui a déjà été abordée dans l'émission. Oui. Dans ce cas, la question ne fonctionne pas, elle ne peut pas valoir de points. Il faut une autre question, la question est qui est l'inventeur du béton,
non,
Stéphane.
J'avais piscine.
Altman. Je connais ça, parce que le premier immeuble en béton armé à Paris n'est pas loin d'ici.
Alors, ce n'est pas du tout un nom à consonance germanique. Je donne un indice à Stéphane, parce que c'est une question difficile. Pas du tout, c'est un nom très français. Si vous aimez les bons sirops, vous pouvez peut-être trouver son nom.
Dessert.
Ah oui.
Non, j'ai dit les bons sirops.
Bigalet.
Non, mais on se rapproche.
Kir.
Où est-ce qu'on fait des sirops? C'est là, dans Aigbel. Aigbel.
Non, visiblement, vous ne connaissez pas. Vous viendrez à la maison, je vous ferai goûter. Donc, c'est une mauvaise réponse de Stéphane.
Non.
Dites un nom, au hasard.
Non, parce que je vais dire...
Vous avez dit que l'inventeur du béton armé, c'est Monsieur Tesser. Pour l'instant,
non,
il n'y est pas.
Non,
la gogoline du docteur Didi.
Mauduit, je ne sais pas.
On n'est pas loin. On n'est pas loin.
Pommier.
Non, on n'est pas loin.
Mot-pied.
Non.
Monnier.
Monnier, c'était une bonne réponse de Stéphane Bern, incroyable.
Ah non, on lui a dit dans l'oreillette, je suis sûr.
Incroyable.
Ah non, si on me l'avait dit dans l'oreillette, on me l'aurait dit juste.
Non, parce que vous faites vachement bien semblant.
Je fais semblant.
Espèce de fauche, on fait semblant d'être là. Maudier. Comment savez-vous que ça commençait par mot en plus? Vous avez dit avec Belle, Tesser.
Non, c'est vous qui l'avez dit.
Oui, bon, bah d'accord.
Ah oui.
Non, c'est de la triche là. Je sens la triche.
Écoutez, c'est peut-être de la triche, mais je donne le point à Stéphane. Effectivement, ce n'est pas Léon Béton qui a inventé le béton, mais Joseph Monnier. Léon Béton existe. Béton est le papa de Jean-Claude Béton, celui qui a commercialisé la boisson Orangina. Ouais. Léon Béton faisait des huiles essentielles de lavande et c'est lui qui ramène la formule de la boisson élaborée par un pharmacien espagnol, Orangina. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Partons en Allemagne, à Fribourg, dans le sud du pays. Sa cathédrale est de toute beauté. Sa construction a débuté en 1120 sous le règne de Conrad de Zähringen. Il y a une gargouille côté sud du bâtiment qui est nue, montre ses fesses par lesquelles s'écoule de l'eau. Vrai ou faux?
Bah bien sûr, des gargouilles de ce genre-là, il y en a beaucoup, bien sûr, mais oui.
Ah, vous avez visité Fribourg et la cathédrale.
Jawohl.
Vous avez gagné.
Une efficacité quasi germanique, j'ai envie dans cette réponse. Ça n'a pas, ça n'a pas fait un pli.
C'est la Panzerdivision, ça rigole.
Vrai. Mais alors, vous dites que c'est fréquent, pas du tout. Apparemment, pendant la construction de l'édifice, le travail des maçons a été augmenté, mais pas leur salaire. Un des tailleurs de pierre a joué un mauvais tour au maître d'œuvre, ce n'était pas prévu de faire une gargouille.
Oui, mais des gargouilles bizarroïdes, coquineux, il n'y a pas besoin d'aller à Fribourg. Allez à la conciergerie dans la grande salle voûtée. Il y a des gargouilles un petit peu coquines, bizarres, grimaçantes, bien sûr.
Bien, nous irons. Nous irons dès que nous pourrons. On parle toujours de Barack Obama, Stéphane, de la famille Bush, des Clinton, mais pas de cet homme de l'ombre, Dick Cheney. Vice-président entre 2001 et 2009, Dick a eu 5 crises cardiaques dans sa vie. Il a subi une transplantation en 2012. Ses adversaires politiques ont déclaré à cette occasion qu'il avait enfin un cœur. Voici la question. Il a été le premier Américain à avoir un pacemaker sans fil. Vrai ou faux? Dick Cheney.
Il n'est pas si vieux, si?
Mais alors, on peut avoir un pacemaker à tout âge. Regardez Michel Drucker.
Il n'a pas de pacemaker.
C'est vrai, il n'a même pas de pacemaker.
C'est dire s'il est jeune. Sans fil, c'est-à-dire... Les autres avaient un fil qui les reliait à quoi?
Comment se recharge?
Je ne sais pas, Stéphane. Un pacemaker sans fil, c'est vrai que la question est...
Est-ce que c'est le même principe que ces mots qui se rechargent toutes seules, peut-être?
Pacemaker sans fil, oui.
Les autres rentrent et puis
avec
ils branchaient leur fil sur la prise.
Ils branchent comme une voiture électrique.
Oui, c'est ça.
Non, je ne sais pas.
Ça paraît fou.
Un pacemaker sans fil.
Un pacemaker, c'est une pile qu'on met dans le cœur.
Je peux dire sans fil. Par sans fil, j'entends un pacemaker qui fonctionne, qu'on peut commander à distance par Wi-Fi. Voilà ma question.
Ah oui, voilà. Alors oui.
Pacemaker,
donc on peut lui faire avoir une crise cardiaque quand on veut.
Oui,
est-ce
oui,
qu'il était le premier Américain à avoir un pacemaker?
Allez, je dirais oui.
C'est extrêmement dangereux.
Vous dites oui.
Vous avez perdu.
Preuve que vous n'avez pas raisonné, Stéphane.
Non, mais comment vous voulez que je raisonne?
Et on parle quand même du vice-président des États-Unis. Donc, ça n'a pas été prouvé. Dick avait une fonction sans fil à son pacemaker, mais pendant qu'il était en poste au gouvernement, elle a été désactivée, cette fonction, pour éviter une attaque terroriste. Les équipes
imagine
de la sécurité craignaient.
Qui pirate son système.
Une attaque à distance.
Et qui arrête le pacemaker du président des États-Unis.
Du vice-président. Heureusement, Dick n'a pas été président. Voilà. Ah oui, vous aurez trouvé ça drôle, effectivement, parce que vous n'aimez pas la politique de Dick Cheney. Mais, néanmoins, ça aurait été un problème de.
Qui se souvient de la politique de Dick Cheney?
Oh, bah, malheureusement, les gens de gauche, ils ont été terroristes. Question numéro 4 pour vous, Clément. C'est en 1750 avant Jésus-Christ que le code de Hammurabi a été rédigé. C'est une sorte de code pénal mésopotamien. Il est écrit noir sur blanc sur ce code que si l'on boit de la bière pendant Akitu, une fête religieuse, c'est interdit et puni de mort. Vrai ou faux?
Oui, le code d'Hammurabi, je crois savoir que c'est le plus ancien document juridique de l'histoire de l'humanité. Il y a toutes sortes de règles qui sont émises et qu'éventuellement puisse boire de... Il serait... puni par la peine de mort de boire de la bière
pendant la fête.
Oui, pendant la fête. C'est paradoxal, ça. C'est justement pendant les fêtes qu'on picole. Ou alors, justement, une fête pendant laquelle il faut rester sobre parce que c'est une fête religieuse, mais c'est plutôt contraire à ce qui se passe dans la plupart des fêtes de l'Antiquité où on souligne par des libations les fêtes auxquelles on est en train de participer. Écoutez, en tout cas, oui, sur le code d'Hammurabi, vieux document juridique, mais est-ce qu'on n'avait pas le droit, sous peine de mort, de boire de la bière pendant la fête? Je vais répondre non, je pense que ça devrait plutôt être le contraire, en fait.
Vous avez gagné.
Une fois de plus, un admirable raisonnement accouche d'une mauvaise réponse. Elle raisonne parfois très longtemps et parfois à tort. C'est faux, une peine de mort était prévue, mais si on coupait la bière avec de l'eau. La peine capitale se donnait par noyade, mais avec de l'eau, pas de la bière. Question numéro 5, elle va vous départager puisque vous êtes à égalité.
Est-ce que je me suis trompé sur la première question? Ah bah non, j'ai tout bon aux deux questions.
Attendez.
Non mais dites donc, réclamation. Là, déjà que vous lui avez filé le roi du béton, Monnier.
Bon,
mais si, c'était sur la gargouille qui est crachée de l'eau par les
mais
fesses.
Mais elle a gagné,
bah, j'ai gagné,
pas
les gars.
Question 5.
Voilà, ça triche là-dedans, regardez-moi
c'est
ça.
Une victoire qui est effectivement validée en régie, mais immédiatement annulée par une instance supérieure, qui est moi. J'ai décidé que nous étions à égalité, que nous allions procéder à la question 5 pour des raisons de timing. Au musée historique de Stockholm, les amis, on trouve les lentilles de Visby. Ce sont de grosses lentilles faites en quartz, les mêmes que celles utilisées pour faire des télescopes. Or, ces lentilles datent de 500 ans avant l'invention des télescopes. À quoi servaient donc ces lentilles? Trois propositions. À voir les tribus ennemies au loin, à cultiver des algues et donc à observer leur maturation, ou, réponse 3, on n'en sait rien.
2.
3.
Qui a dit quoi?
Moi j'ai dit on n'en sait rien.
On n'en sait rien, c'est une bonne réponse. Oh, comme quoi, il y a quand même une justice. Il y a
et
un
voilà.
Dieu là-haut.
Voilà,
c'est
voilà.
Clémentine qui remporte
ça, la vie
le match,
parisienne.
Alors
c'est...
que j'avais essayé de le truquer, Stéphane, en
c'est
votre faveur.
C'est votre seule façon de croire en Dieu.
Oui,
parce que
effectivement.
On n'en sait rien.
On n'en sait rien.
C'est parce que... Eh ben bravo.
Avouez qu'on vous a soufflé Momo, là.
Non, c'est le moment de votre oreillette. Confessez
allez,
au Père Noël.
Avouez,
confessez.
C'est ça.
Au Père Noël.
À la baie Noël, si vous voulez. Non, on n'en sait rien. C'est surtout
on
très joli,
rien.
Ces petites lentilles. Elles datent du XIIe siècle et étaient certainement utilisées comme bijoux, comme bibelots. Peut-être que les Vikings ont ramené ces bijoux de leur voyage. On sait qu'ils avaient des routes commerciales qui allaient jusqu'à Constantinople. Bref,
bah bien
on
sûr,
n'en sait rien.
Bien sûr, ils ont rapporté ça sans connaître nécessairement l'utilité bien sûr. De l'objet qu'ils avaient
pas la peine de développer.
Volé.
Vous avez gagné, Clémentine. C'est gagné.
Et comment?
Bravo.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et je vous en félicite, c'est une preuve de bon goût. Avec Mathieu, chaque après-midi, on vous propose de jouer avec l'histoire autour de trois personnages très différents ayant vécu à des époques très éloignées mais qui ont toujours un point commun. Aujourd'hui, c'est celui d'avoir tombé la robe.
Non, oui Stéphane, non, oui. Enfin un thème d'émission un peu racoleur.
Bah, pas du tout Mathieu, pas du tout. On parle aujourd'hui de ces nonnes qui un jour ont choisi de quitter les ordres, des nonnes défroquées.
Ah oui, on va noter, c'est intéressant quand même. Hein.
Bien sûr, après Catalina de Arroso, je vous présente Alexandrine de Tencin, qui a quitté le couvent et renoncé au célibat pour une vue bien plus remplie où elle tenait salon, comme on dit. Et puis, Mathieu, de votre côté, vous avez dégoté une histoire plus proche de nous et qui, quelque part, va encore plus loin.
Vous aimez l'amour, Stéphane ?
Bah oui, bien sûr, comme vous.
Vous aimez Jésus, Stéphane ?
Bah, comme vous.
Mais que faire lorsque vous aimez à la fois l'amour et Jésus ? Eh bien, vous faites comme Isabelle et Federica, vous quittez les ordres et vous vous mariez. Ça se passe en Italie et vous allez certainement verser votre petite larme, Stéphane.
Ah, c'est beau. Alors, sans oublier les belles histoires d'amour avec nos chroniqueurs. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet qui fait fureur, d'une mode.
Tout à fait, Hello Kitty. Hello Kitty, ce petit chat blanc.
Mais c'est quoi Hello Kitty à la base ? Bon, vous allez la raconter, mais
oui, c'est juste une marque de merchandising. Hein,
c'est une marque ? Ah, c'est un personnage de dessin animé ?
Non, ça l'est devenu
ensuite. D'accord. Olivier Pouls, vous allez nous parler de quelque chose de plus traditionnel, l'origine du poulet frit.
Oui, vous aimez le poulet frit ?
J'aime le poulet frit.
Tout le monde aime ça, le poulet frit. Mais d'où vient-il ? Et vous allez voir que derrière cette histoire et cette recette, il y a une sombre histoire de vol ou d'appropriation qui me dégoûte un peu.
Il y aura également en toute fin d'émission notre nouveau quiz, encore plus bidonné que Burn to be Alive, puisque c'est toujours David qui gagne. Mais d'abord, elle fut la mère du philosophe et encyclopédiste Jean d'Alembert. Pourtant, dans sa jeunesse, elle avait juré fidélité au Seigneur. Que s'est-il donc passé ? Stéphane Bern nous raconte Alexandrine de Tencin.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il fut un temps, d'ailleurs loin d'être révolu hélas partout et pour toutes, où l'on interdisait aux femmes de choisir leur destin. Elle a choisi de le changer en faisant tomber la robe de religieuse qui lui était dévolue pour une toute autre tenue et surtout un tout autre destin. Stéphane Bern nous raconte Alexandrine de Tencin.
Tout commençait bien pour Alexandrine de Tencin. Née en 1682 dans une noble famille du Dauphiné, elle jouit de l'éducation classique de son rang auprès de précepteurs dans l'hôtel familial de Grenoble et batifole avec sa fratrie. À 8 ans, comme ses deux grandes sœurs avant elle, on l'envoie parfaire son éducation au couvent, rien de plus banal dans ce milieu. Elle est placée au monastère royal de Montfleury, où toute l'aristocratie locale envoie ses fils s'instruire en attendant de leur trouver une situation. Entendez par là un mari. C'est là le triste lot des femmes de ce temps, considérées toute leur vie comme des êtres subalternes passant de l'autorité de leur père à celle de leur époux. Mais la jeune Alexandrine va vite réaliser qu'une injustice de plus s'ajoute à la longue liste de celles que subissent ses congénères. Benjamin, des 5 enfants, ses parents n'ont ni les moyens de lui fournir une dot attrayante, ni l'envie de voir l'héritage se disperser. La solution est toute trouvée. Vous serez nonne, ma fille. Imaginez la déception de la jeune fille lorsqu'elle voit ses camarades quitter la clôture du couvent pour vivre leur vie. Vie d'épouse, certes, mais vie de femme, dont certaines arrivent à trouver de la liberté, même dans le mariage. Alexandrine proteste, lutte et éructe, mais son père maintient sa position et le 25 novembre 1698, son sort se scelle à jamais. Forcée de s'exécuter, Alexandrine prononce ses vœux définitifs. Il faut se figurer le rituel, Mathieu. Seule, face à la foule assemblée dans l'église, un voile recouvrant ses cheveux tout juste coupés, elle doit s'allonger la face contre le sol glacé devant l'autel et se voir recouverte d'un drap mortuaire. Alexandrine de Tencin est symboliquement morte pour le monde terrestre. Sœur Alexandrine ne doit désormais vivre que pour Dieu. Son confesseur, la mère supérieure et les sœurs du couvent savent bien qu'elle ne souhaitait pas embrasser l'état ecclésiastique, mais comment lutter contre ce père noble puissant, président du Sénat de Savoie, sans créer de scandale ? Alexandrine de Tencin accepte son sort pour mieux lutter contre. Dès le lendemain de la cérémonie, elle fait venir un notaire au couvent pour clamer le caractère non volontaire de sa prise de voile et lancer une procédure d'annulation de ses vœux auprès du Saint-Siège. Une procédure complexe et fort longue, peut-être suffisamment longue pour que son insensible père n'en voie pas le bout et rejoigne avant le paradis ou l'enfer. Pendant ce temps, appuyée par sa sœur Angélique et d'autres parents ou amis, Alexandrine profite des sorties qui lui sont autorisées pour toucher du doigt les bribes du monde qu'elle désire tant, celui du dehors. Elle renouvelle régulièrement sa demande d'annulation. La mort du père en 1705 ravive ses espoirs, mais ce ne sera qu'après un long processus qu'enfin, en 1712, à 30 ans, le pape la libère de ses vœux. Alexandrine n'avait pas attendu l'acte officiel pour s'installer dès 1711 chez sa sœur à Paris. Là, elle rencontre le beau monde et peut lui offrir le plaisir de goûter son esprit qu'elle a eu tout loisir de cultiver durant ses longues journées d'ennui au couvent. Désormais, place aux joies et aux divertissements. Et cela tombe bien car la période est propice. En 1715, Louis XIV, bigot et vieillissant, meurt. En attendant la majorité de Louis XV, le système de la régence s'installe. Et le régent Philippe d'Orléans n'est pas le dernier des jouisseurs. Un vent de liberté s'installe qui mène parfois au libertinage. Alexandrine de Tencin enchaîne les rencontres et les amants, jusqu'au régent lui-même ou à son influent ministre, l'abbé Dubois. Elle compte désormais dans le monde. En 1717, elle s'installe en femme libre dans ses propres appartements de la rue Saint-Honoré. Ni religieuse, ni épouse, ni même veuve, l'un des rares moyens pour une femme d'être indépendante, elle tient à son autonomie au point d'abandonner l'enfant à qui elle donne naissance la même année. Enfant qui, recueilli par son père, deviendra le célèbre Jean d'Alembert ou celui de l'encyclopédie. Rien n'entrave donc la liberté de Madame de Tencin. Et sa liberté passe aussi par l'argent. Grâce au système du financier John Law, qui vient de créer un papier-monnaie et une banque à actions, Madame de Tencin spécule et se taille rapidement une confortable fortune. Son pouvoir et son influence s'accroissent en même temps que sa richesse. On l'a dit la pire des intrigantes, profitant de son salon désormais couru de tous pour favoriser ses proches et se mêler des affaires d'État. Au point qu'elle est brièvement exilée en 1730 et priée de ne plus s'immiscer dans la chose publique. La vie de Madame de Tencin tourne désormais autour de son salon où se presse tout ce que Paris compte de diplomates, ecclésiastiques ou magistrats et qui prend de plus en plus des tournures intellectuelles. Fontenelle, Marivaux, Montesquieu pour les plus célèbres passent leurs mardis et vendredis à philosopher, lire, écrire, pérorer sur le beau, le juste et sur bien d'autres sujets. Et Madame de Tencin n'est pas qu'une élégante hôtesse au bel esprit, elle écrit des romans. L'un des rares espaces de création que les hommes cèdent parfois aux femmes. Son premier ouvrage, Mémoire du comte de Comminges, est publié anonymement en 1735, le succès est immédiat. Un autre suivra en 1739 et son dernier, Les malheurs de l'amour, en 1747, 2 ans avant sa mort. Si elle se concentre sur les choses de l'esprit, Alexandrine de Tencin ne cessa jamais de vouloir favoriser la carrière de son frère Pierre. Abbé, il deviendra grâce à elle cardinal et elle fera tout, sans succès, pour le placer au poste de premier ministre de Louis XV. Roi connu pour son goût du libertinage, qu'elle n'hésite pas à pourvoir en maîtresse pour s'en attirer les faveurs. Elle n'est notamment pas étrangère à l'ascension de Jeanne-Antoinette d'Étiol, future marquise de Pompadour. Entremetteuse, libertine, femme d'influence et de pouvoir ou femme de lettres, excepté religieuse, Madame de Tencin fut tout ce qu'elle a choisi d'être. C'est ce qui fait d'elle une figure qu'il n'est pas abusif de qualifier de féministe. Et l'on peut s'en remettre à ses propres mots pour incarner la finesse de son esprit si aiguisé. On voit bien la façon dont il nous a traités que Dieu est un homme. Et c'est une religieuse qui le dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Madame de Tencin, nous sommes avec l'écrivaine Madeleine Mancier-Berthaud. Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Bonjour Madeleine Mancier-Berthaud, vous êtes écrivaine. Vous avez publié La Défroquée, un ouvrage consacré à Alexandrine de Tencin, paru aux éditions Ramsay. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage un peu oublié de l'histoire?
Alors, j'ai découvert chez cette femme intelligente une volonté farouche de vivre sa vie telle qu'elle la rêvait. Elle a mené un long combat sans jamais se laisser abattre par le découragement. Et pour cela, je l'admire.
Dans votre livre, vous la présentez notamment comme rebelle, insoumise et même scandaleuse.
Oui, scandaleuse, effectivement. Elle a intrigué. Bon, c'était sa seule arme contre dont elle disposait. Elle avait contre elle son père et je pourrais presque dire toute la chrétienté. Surmonter ses difficultés, c'était une entreprise d'avance vouée à l'échec. Alors, elle est devenue experte dans l'art de comploter.
On parle beaucoup du XVIIIe siècle comme le siècle du libertinage. Non. Et visiblement, Alexandrine de Tencin était très à l'aise avec les mœurs de son époque, parce qu'on lui connaît évidemment de nombreux amants. Vous-même, vous la décrivez comme une amoureuse dévoreuse de mâles. Alors, on a cité le régent, Philippe d'Orléans, on en a cité d'autres. Qui furent les plus célèbres?
Alors, les plus célèbres, ce fut Philippe d'Orléans, mais aussi le premier ministre Dubois.
L'abbé Dubois.
Oui. Et puis, dont elle fut l'égérie et l'espionne. Mmh. Et il y a eu La Fresnaye et Richelieu et combien d'autres dont je n'ai pas trouvé les noms de toute façon, qui ne sont pas forcément cités. Elle choisissait ses amants parmi ceux qui pouvaient lui servir à la fois pour approcher le pouvoir, mais aussi pour s'enrichir. À cette époque, les femmes n'avaient guère que leur corps pour y parvenir. Son frère Pierre est le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Et la rumeur prétendait que cet amour n'était pas platonique.
Des liaisons de Madame de Tencin est née, on l'a dit, Jean d'Alembert, le co-rédacteur de l'encyclopédie, qu'elle a abandonné à la naissance. Pourquoi est-ce qu'elle a refusé d'être mère et épouse ?
Eh bien, pourquoi elle avait non sans mal accédé à une liberté qu'elle ne voulait pas aliéner. Elle aimait trop sa nouvelle vie et de la famille, elle avait quand même une triste expérience. Je ne vois pas d'autre explication.
Je le racontais tout à l'heure, le salon de Madame de Tencin est vite devenu l'un des salons les plus courus de la capitale. À quoi ressemblait une soirée dans ces appartements de la rue Saint-Honoré ?
Alors, dans son salon, on critiquait Louis XV, alors au pouvoir. On organisait des mariages, on jouait aux jeux de société. C'était très joyeux.
Ça n'allait pas plus loin ?
On faisait de bons mots, on dressait des portraits pour se moquer. On s'amusait beaucoup. Et puis, ces soirées se terminaient souvent par les jeux de l'amour, auxquels Alexandrine n'était pas la dernière à participer.
Ah oui. Elle avait parce qu'on a du mal à distinguer chez elle ce qui relevait de sa nécessité de s'élever dans la société et de son plaisir personnel. Elle était vraiment, quand vous dites dévoreuse de mâles, uniquement par intérêt ou elle avait tout simplement un attrait pour les choses de l'amour, simplement?
Je pense qu'elle aimait ça avant tout. Elle aimait, elle y avait quand même goûté quand elle était au couvent. Mais là, elle était tellement libre, elle se grisait de cette liberté, je pense.
Et Stéphane l'a raconté un peu, son influence a permis de favoriser plusieurs de ses proches. Quel a été son rôle dans l'ascension de Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV ?
Alors, on dit aussi qu'elle choisissait les maîtresses, des maîtresses pour le roi. Et la Pompadour fut de celle-ci, mais je pense que ça a été un excellent choix.
Oui, mais enfin, elle s'immisçait, vous le dites, dans toutes les intrigues, mais le fait de s'immiscer en permanence dans la chose publique a fini par lui causer quelques ennuis.
Ah, vous voulez peut-être parler de son histoire avec La Fresnaye ?
Oui.
Parce qu'après qu'elle l'ait dépouillé de sa fortune, ce dernier s'est suicidé. Il a laissé une lettre qui accusait Alexandrine, et cette vilaine action l'a conduite à la Bastille. C'est ainsi que ce triste épisode, c'était un triste épisode pour cette femme, parce que après avoir régné sur le siècle des Lumières, elle passait à l'ombre d'un cachot.
Et finalement, est-ce que vous pensez que cette femme a été heureuse dans sa vie ?
Non, je pense pas. Elle s'est grisée de tous les plaisirs dont elle avait été privée. Parce que son choix, c'était celui-ci, mais il est arrivé tardivement. Elle a été relevée de ses voeux très, très tard.
En tout cas, merci beaucoup, Madeleine Mancy-Berthaud, de nous en avoir appris davantage sur Alexandrine de Tencin. Je rappelle le titre du livre que vous lui consacrez, La Défroquée, disponible aux éditions Ramsay. Merci d'avoir été cet après-midi avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces religieuses qui un jour ont tombé la robe. Après Alexandrine de Tencin, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai, non pas d'une, mais de deux nonnes qui ont renoncé aux ordres et au même moment.
Oui, Stéphane, vous vous dites qu'il y a anguille sous roche et vous avez raison. C'est ce genre d'histoire dont nous allons parler à présent. Une histoire où, comme dans la chanson de Mécano, il y a
deux femmes qui se tiennent la main.
Je vais vomir.
Non, Stéphane, je vous en prie, ne vous crispez pas. Faisons preuve de modernité, on est quand même en 2021.
Hein. Quand même, accusez-moi de vouloir vomir.
Je fais ce que je veux, c'est ça l'intérêt. Les figures de l'Inquisition sont maintenant loin.
Grâce leur soit rendue.
Oui, bref, je suis sûr que vous, chers auditeurs, vous allez adorer cette histoire. Car oui, on adore tous pouvoir dire dans les dîners qu'on a un couple d'amis gays. C'est notamment très chic à un moment de la soirée de lâcher nonchalamment une phrase du style « Avec Capucine, on a dîné chez John et Michael hier soir, ils nous ont fait un pesto, je te raconte pas ». D'ailleurs, souvent on le raconte pas parce que ça n'a aucun intérêt. En revanche, tout le monde a bien noté que vous étiez cool, open-minded, 2021 compatible. Eh bien, aujourd'hui, j'ai mieux pour vous que John et Michael. Federica et Isabelle, deux anciennes nonnes qui ont tourné le dos à l'église pour s'envoyer en l'air. Les conséquences de cette dernière phase sont les suivantes. Christine Boutin est décédée, Éric Ciotti est cyanosé et Olivier Pouls a une demi-molle. Trois événements aussi regrettables les uns que les autres car l'histoire d'Isabelle et Federica n'a rien à voir avec le stupre et tout à voir avec l'amour. Leur romance se déroule en Italie, pays de Roméo et Juliette, et désormais donc de Juliette et Juliette. Vous pensiez que les seules nonnes rebelles de l'histoire c'était Whoopi Goldberg dans Sister Act et Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur ? Je vous présente Isabelle et Federica. Alors je sais, Isabelle et Federica, ça sonne tout de suite duo de coachs sportifs qui ont ouvert un centre de power play en banlieue de Milan qu'elles auraient baptisé malicieusement Fitalia. Et non, je vous rappelle que lorsqu'elles se rencontrent, les deux femmes ne sont pas culturistes, mais nonnes. Elles sont affiliées à l'ordre franciscain. L'ordre franciscain, qu'est-ce que c'est ? Je cite, « Un courant issu de la pensée et de la vie de Saint François d'Assise, porté par un message d'ouverture, d'humilité et de don de soi en parcourant le monde. » Bref, des nonnes avec un guide du routard et pas mal de miles sur leur carte Air France KLM. C'est lors d'une mission en Afrique qu'elles se rencontrent. Dans la moiteur de la savane. Non, là, ça, c'est moi qui ajoute. Féfé croise le regard d'Isa, Isa croise le regard de Féfé, un cœur qui palpite, un fou qui s'affole, une cornette qui se soulève. Je vous le fais en version accélérée, c'est vrai, elles sont d'abord amies. Une belle amitié catholique, sans arrière-pensée coquine, on passe du temps ensemble, on se livre à d'innocents passe-temps du style « Dis-moi quel est ton animal préféré, je te dirai qui tu es. Tiens, si je faisais ton thème astral, ou encore, et si on se regardait un DVD ensemble dans ma case ?» Bref, on reste dans les clous des consignes du Vatican. Mais voilà Stéphane, vous le savez, vous qui participez souvent aux croisières du Ponant, en voyage, tous les sentiments sont exacerbés. Quelle adolescente s'est jamais roulée par terre sur un quai de gare après avoir quitté son premier amour, rencontré en colo UCPA Escalade 10 jours auparavant ? Qui n'a jamais couché avec un géo du Club Med en s'imaginant dès le lendemain matin, au buffet petit-déj, porter un jour son nom ? Tout est plus fort en voyage, plus intense. Bon, étant religieuses, Isabelle et Federica vont quand même prendre leur temps avant de s'avouer leurs sentiments, avant de s'avouer à soi-même.
Yesu gay.
3 ans de thème astral et de puissance 4 avant de se laisser aller à leur passion. Passion qui les mènera très vite, j'ai envie de dire trop vite, à renoncer à la vie monacale pour passer directement à la seule vie qui est peut-être encore plus chiante que la vie monacale, la vie de couple. Ah, mesdames, vous qui avez essayé de rompre votre vœu de célibat, bienvenue dans le monde des chewing-gums partagés, de l'épilation approximative, des petits noms animaliers absurdes, des portes ouvertes aux toilettes, des mots fléchés dans le lit et bien sûr, des rapports sexuels bimensuels. Le package complet de la vie de couple, voilà à quoi souscrivent Isabelle et Federica tellement elles s'aiment. Évidemment, elles ont découvert au passage l'amour charnel. Au début, bon, Isabelle était hésitante, un peu gauche, elle savait pas trop comment s'y prendre, mais très vite, elle s'est laissée guider par Federica en se disant
« Qu'est-ce qu'elle est douée ?»
À 44 ans, elle décide même de se marier. L'union civile se déroule à la mairie de Pinerolo, pour les linguistes, dans la région italienne du Piémont, non loin de Turin. Qui sont les mariés ? La Stampa, le quotidien italien, nous les présente ainsi. Federica, de nationalité italienne, ayant poursuivi de brillantes études de lettres, rentre dans les ordres pour porter le message du Christ auprès des plus pauvres. Isabelle, elle, est colombienne. Elle est passée sa vie à aider les toxicomanes de la capitale italienne aux villages africains. Après la mairie, les épouses s'offrent également une cérémonie religieuse, non officielle bien sûr, mais célébrée par l'ancien prêtre Franco Barbero, lui-même exclu de l'église par Jean-Paul II en 2003 pour avoir critiqué l'étroitesse d'esprit de l'église. Et depuis, ce prêtre se bas pour concilier chrétienté et homosexualité dans la paix du Christ. Un beau projet, surtout en terre italienne où le mariage gay n'a été adopté qu'en 2016, soit après tous les autres grands pays européens. Aujourd'hui, Isabelle et Federica vivent heureuses. Chaque année, elles organisent un grand dîner où elles invitent tout leur voisinage.
J'espère que vous aimez les moules.
Même si elles ne portent plus la soutane, Jésus, leur ex, bah oui, c'est un grand dîner, c'est très sympa Stéphane, c'est un petit village comme ça. Et même si elles ne portent plus la soutane, Jésus, leur ex, reste malgré tout au cœur de leur vie. Leur foi, figurez-vous, est intacte. Elle a aidé Isabelle à surmonter la dernière épreuve qui l'attendait, je cite, « Il me reste encore à annoncer à mon père que je suis homosexuel et que j'ai épousé une femme. » Alors là Isabelle, je peux te déstresser direct, hein, vu le nombre d'articles qui ont couvert votre mariage dans le monde, s'il ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas savoir ton papa. Voilà pour cette belle histoire qui indéniablement nous fait
bander,
réfléchir en ce qui me concerne David. Après évidemment, libre à vous, hein, dans la paix du Christ en tout cas évidemment. C'est l'histoire.
Merci Mathieu, c'est une belle histoire d'amour.
C'est une très belle histoire d'amour que j'ai un peu salie, alors que on sent en plus beaucoup de pudeur chez ces deux femmes.
Bien sûr,
absolument. Je ne sais même pas si elles ont consommé.
Vous n'avez aucun respect pour Aurélien.
Aucun respect ni pour la religion, ni pour l'amour.
Ni pour l'amour, oui. Vraiment, vous ne respectez.
J'irai directement en enfer.
C'était une si belle histoire d'amour. Merci en tout cas Mathieu de nous avoir éclairé sur Isabelle et Federica.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors que Stéphane se remet de ses émotions, il faut dire que l'histoire de Denon qui se pécho, il a failli s'étouffer avec son hostie, nous attaquons la dernière demi-heure de notre émission.
Oui Mathieu, et mieux qu'une grand-messe, c'est le quiz, la lutte finale qui nous réunira en fin d'émission. Ou plutôt qui nous désunira lorsque je vous poserai mes drôles de questions. Mais avant cela, il est l'heure de nous faire non pas un retour vers le futur, mais plus modestement, un retour vers le présent avec vous, Olivier Pouls.
Oui, et puis une recette que vous pourriez tout à fait faire ce soir, tiens, si vous n'êtes pas très inspiré, du poulet frit. Et d'où vient cette recette? Vous verrez qu'il y a une petite histoire de plagiat ou même de vol, disons-le.
Ça vient carrément du Mississippi,
non? Non.
Ah non. Bah, j'ai tenté.
Oui, mais.
J'ai perdu. Un peu comme dans la lutte finale tout à l'heure. En attendant, David Castello-Lopez remonte aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, ça tombe bien pour de la radio, c'est très visuel puisque vous nous avez amené un Hello Kitty.
Tout à fait. Hello Kitty, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est donc elle, hein, la mascotte d'une marque japonaise de merchandising qui représente un chat blanc. Et pour ceux, comme vous le disiez, qui écoutent encore la radio au lieu de la regarder, je vais la décrire un petit peu plus précisément, Hello Kitty. Alors Hello Kitty, elle a un visage qui est beaucoup plus large que haut. Elle a des moustaches de chat qui sont figurées par trois traits noirs brodés de chaque côté de son visage. Elle a deux yeux parfaitement noirs, ce qui lui donne un regard dont on ne sait pas s'il est infiniment vide ou infiniment profond. Elle a un petit nez jaune, un ruban sur l'oreille et surtout, surtout, elle n'a pas de bouche. Donc, fondamentalement, si on est honnête un peu, Hello Kitty, elle est complètement difforme et monstrueuse. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'imaginer un vrai chat qui aurait le visage complètement aplati et pas de bouche. Et tout de suite, on voit très bien ce que je veux dire. Hello Kitty, c'est une sorte de Strum. Et pourtant, l'impression qui s'en dégage quand on la regarde, c'est celle de la mignonnerie extrême. Hello Kitty, elle a l'air un tout petit peu désemparée, vous voyez ? Elle a l'air d'être prête à vous donner tout son amour, pourvu que vous vouliez bien être son ami.
Mais votre compagne est toujours à la maison ou elle est partie, David?
Parce que c'est pas moi qui disais plein de gens dans le monde. Mais alors, qui est le taré génial qui a conçu ce chat monstrueux auquel la terre entière a envie de faire des câlins? Eh bien, Hello Kitty, c'est l'un des 400 personnages créés par une entreprise japonaise qui s'appelle Sanrio. Il y en a plein d'autres dont vous avez jamais entendu parler. Probablement d'ailleurs que vous avez entendu parler d'aucun autre personnage de Sanrio à part Hello Kitty. Et c'est dommage parce qu'il en existe très rigolo, comme par exemple Koro-chan. Koro-chan qui est un ours qui a des croquettes attachées en permanence à son visage et qui les mange quand il a faim. C'est comme si Olivier Pouls se trimballait avec un jambon beurre scotché sur le front. Vous voyez, ce serait super joli à voir. Hello Kitty, elle a été dessinée en 1974 par une dame qui s'appelle Yukio Shimizu et qui, comme très souvent, n'a pas touché beaucoup d'argent sa création. Et oui, parce que quand vous signez un contrat avec une entreprise pour dessiner des personnages, eh bien, c'est marqué dans votre contrat que vos créations n'appartiennent non pas à vous, mais à l'entreprise. Hello Kitty, elle a eu un succès d'abord discret, mais c'est un succès qui est devenu planétaire parce que c'est devenu le personnage emblématique d'un mouvement culturel que je trouve infiniment chelou et qui est celui du kawaii. Kawaii en japonais, ça veut dire mignon, fragile, pathétique. Et la mode kawaii, c'est la mode qui consiste, pour les femmes surtout, à faire semblant qu'elles ont 12 ans, qu'elles sont innocentes, sans défense, et qu'elles ont aucune idée qu'elles peuvent être l'objet d'un désir quelconque. Les femmes kawaii, pour résumer, elles ne sont pas au courant qu'il existe des zizi, ni même qu'elles-mêmes possèdent des zézettes. Mais bien sûr, tout ça, en partie du moins, c'est précisément une façon d'être ultra sexy, puisque comme chacun sait, rien n'excite plus l'homme moyen traditionnel qu'une femme innocente qui a besoin de sa protection. Et Hello Kitty, c'est le symbole de ça. C'est l'ambassadeur mondial du kawaii, le Ban Ki-moon de la mignonnerie, l'agacan du cute. Vous voyez, c'est ça Hello Kitty. La question, c'est donc de savoir comment est-ce qu'elle a pu obtenir ce statut. Eh bien, j'ai isolé pour vous deux raisons. La première, c'est que Hello Kitty existe dans une variété phénoménale, inédite de produits. Il y a 50 000 références officielles de Hello Kitty. Des gommes, des carnets, des règles, des peluches, des stylos, bien sûr, mais aussi des tire-laits, du vin Hello Kitty,
oh, ça doit être
des
bon, ça.
Appareils dentaires Hello Kitty, de l'huile de vidange Hello Kitty.
Mais non, de l'huile de vidange, tu l'inventes.
Non,
de l'huile de vidange.
Un vibromasseur Hello Kitty.
Bah maintenant, elle sait où il a zézé.
Et même des couches pour adultes Hello Kitty.
Ah bah oui, pour finir en beauté.
Voilà. Et puis ce qui l'a rendu particulièrement célèbre ces 10 dernières années, c'est que cette culture du kawaii a débordé complètement du Japon pour toucher le monde occidental et en particulier des stars du monde occidental. Paris Hilton, par exemple, elle est fan de Hello Kitty. Alors bien sûr, sa carrière est née d'une sextape, donc on se dit que elle, au moins, elle est au courant qu'il existe des zizi.
Ah oui.
Mais malgré tout, elle est quand même un petit peu kawaii. Katy Perry aussi, vous voyez, Rihanna, Lady Gaga et toutes ces stars se sont devenues des ambassadrices d'Hello Kitty et elles ont fait son succès. Et c'est comme ça qu'un chat sans bouche est devenu une star mondiale. Et d'ailleurs, peut-être que le fait qu'elle n'ait pas de bouche y est pour quelque chose. Le PDG de Sanrio, Shintaro Tsuji, il dit en tout cas que cette absence de bouche, elle n'est pas anodine puisqu'elle symbolise pour lui, un axiome moral, le fait que les êtres humains ne doivent pas s'exprimer seulement par les mots, mais aussi, surtout, par leurs actes.
Waouh, le mec, il a vachement
intellectualisé
le truc quand
c'est
même.
Devenu, c'est devenu a posteriori.
Ouais, ouais, il a trouvé la justification.
Bravo.
Ouais.
Voilà. Passionnant. Mais merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
David Castello-Lopez émettait la possibilité qu'un jour, Olivier Pouls se promène avec, au-dessus de sa tête, ficelé quelque part à sa tête,
un jambon beurre.
Mais aujourd'hui,
ça m'ira bien, d'ailleurs.
Ça vous arrive bien, vous pourrez croquer comme ça à votre guise. Aujourd'hui, vous nous parlez du poulet frit. On remonte aux origines du poulet frit.
Oui, et ce plat, évidemment, lui, est associé au fast-food américain. Évidemment, le fameux poulet frit d'une célèbre enseigne que vous connaissez tous, KFC, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais il faut savoir que ce plat n'est pas tout à fait originaire du pays de l'oncle Sam. En réalité, la tradition de la gastronomie ou de la cuisine, dirons-nous plutôt africaine, faisait apparaître le poulet frit bien avant que les Américains ne se l'approprient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir du XVIIe siècle, malheureusement, durant cette grande et triste période de l'esclavagisme, on a quand même déporté des populations entières d'Afrique pour les emmener travailler de force aux États-Unis. Ils ont apporté avec eux cette recette. Et dès le XVIIIe siècle, des femmes noires vendaient ces fameux morceaux de poulet sur des marchés et dans les gares aussi. Ils servaient directement les voyageurs à la fenêtre. Et on pouvait suivre d'ailleurs la migration vers le nord des populations noires en suivant les autres poulets le long des lignes de chemin de fer. On a appelé ça la Chicken Bone Express. Les Blancs, eux, avaient un petit paradoxe à gérer. C'est que d'un côté, ce plat était totalement identifié aux populations noires,
mais
mal vu à l'époque.
Bon.
Mais c'était super bon.
Et
qu'est-ce que l'homme fait à ce moment-là? Il met ses préceptes de côté et il écoute son estomac.
bien
évidemment, il en achète et il en mange. Et les Blancs vont carrément aller plus loin puisqu'ils vont s'approprier la recette. Mais la première trace écrite de poulet frit, c'est dans un livre de cuisine en 1824 qui s'appelle The Virginia Housewife, qui est rédigé par une femme blanche issue d'une famille d'esclavagistes.
Super.
Elle a tout simplement piqué la recette.
C'est dégueulasse.
Et oui. Et celui qui va vraiment se l'approprier et faire fortune sur son dos, c'est encore un blanc, un certain Harlan Sanders, qui a fondé la fameuse chaîne de restaurants KFC. Tout est parti d'une station-service. Tout est parti d'une station-service qu'il avait ouverte en 1929 dans le Kentucky et dans laquelle il préparait le poulet frit. Alors, il faut lui reconnaître un certain talent culinaire, il avait adapté la recette, notamment avec un mélange, une composition d'épices et d'herbes qui reste soi-disant totalement secrète.
C'est comme la recette du Coca.
Et c'est tout de suite, évidemment, un énorme succès. Alors, il va créer la chaîne KFC quelques années plus tard. Le premier ouvre en 1952 dans l'Utah, à Salt Lake City. Et aujourd'hui, le groupe ne lui appartient plus. Il est mort en 1980. C'est un grand groupe international. Il y en a des centaines et des centaines dans le monde. Mais plutôt que d'aller chez KFC ce soir, restez donc chez vous et préparez quelques morceaux de poulet frit. Je vous donne la recette.
Oui, volontiers.
Eh ben, c'est cadeau, c'est facile. Quelques morceaux de poulet. Vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez vous amuser à désosser des cuisses ou prendre des pilons, enfin bref, tout ce que vous voulez. Il vous faut de la farine et de la fécule de maïs, c'est bien de mélanger les deux, ça apporte plus de croustillant, 3-4 cuillères. 2 œufs, des cornflakes non sucrés, parce que ça va donner le secret du croustillant. On va utiliser des cornflakes et non pas de la chapture. Un mélange d'épices, alors paprika fumé, coriandre, piment, poivre, cumin, faites tout ça. Un peu d'huile, sel, poivre. Le secret, c'est de faire mariner quelques heures votre poulet avec les épices et un petit peu d'huile pour vraiment l'imprégner, lui donner du goût. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une panure classique, c'est-à-dire on va passer les morceaux de poulet dans la farine, dans l'œuf battu et dans les cornflakes qu'on aura,
dans cet ordre-là.
Voilà, qu'on aura écrabouillé de manière à avoir des morceaux de taille inégale, mais pas des trop gros morceaux non plus. Friture à 180 degrés pendant 3-4 minutes et vous avez un poulet à la fois épicé, croustillant et qui se rapproche, qui est même meilleur, disons-le, que celui de la grande marque dont on a cité le nom.
Ça amuse beaucoup les enfants, cet atelier où vous trempez dans la panure.
Vous mettez la farine avant l'œuf.
La farine, l'œuf, les cornflakes. Ça amuse beaucoup les enfants. Il n'y a plus l'esclavage aujourd'hui, mais les enfants sont des petits esclaves. Vous pouvez vous en servir aussi, et ils sont très très contents de le faire. Et tout le monde sera content et on mangera un bon poulet. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous y voilà les amis, l'ultime séquence de notre émission, un quiz baptisé La Lutte Finale. Qu'est-ce que La Lutte Finale? Eh bien un jeu de culture générale qui se joue à 3 et à la fin c'est David Castello-Lopez qui gagne.
Et oui, c'est une lutte sans merci entre Olivier, Mathieu et David sur le terrain de l'histoire. Qui sera le champion du jour? Olivier, je vous pose la première question. Le cardinal de Richelieu a fait interdire les duels parce que cela faisait trop de morts dans les rangs de la noblesse. Ceux qui pratiquaient quand même étaient condamnés à mort. C'est vrai ou c'est faux?
Non, ça paraît tellement absurde. Comment voulez-vous que ce soit vrai? C'est absurde.
C'est trop con pour être vrai.
Non,
non, non.
Ah non. C'est pourtant vrai. Non. Le cardinal avait perdu son frère ainsi dans un duel. Il demande à Louis XIII de prendre un édit pour interdire les duels. Eh bien, il y a eu des décapitations pour cause de duels clandestins. Voilà. David, la question est pour vous. Le règne le plus long de l'histoire de France est celui de Louis XIV. 72 ans. Ça, vous le saviez.
Oui. À 2 ans près, j'aurais dit.
Et le plus court a duré 20 minutes. C'est vrai ou c'est faux?
Non, ça doit être vrai. Ça doit être un bébé du Moyen-Âge. Donc, je dirais oui.
Alors, c'est pas un bébé du Moyen-Âge.
Non. Hein.
Dans les célèbres journées glorieuses, comme on appelle les Trois Glorieuses, les journées de 1830, vous savez, Charles X abdique. Il y avait le fils. Il y avait le fils. Et donc, c'est Louis XIX qui règne
20 minutes.
20 minutes.
Et on en avait parlé dans cette émission.
Ouais, bien sûr.
C'est certainement en écoutant historiquement vôtre que vous aviez appris cela.
Mathieu Noël, c'est vous.
Oui.
Alors, je sais que vous adorez l'histoire américaine et vous nous posez beaucoup de questions dans cette émission, mais c'est à votre tour. Donald Trump voulait faire figurer sur des billets de 20 dollars un lointain aïeul de sa propre famille, mais Joe Biden a stoppé le projet. C'est vrai ou c'est faux?
Alors, je vois pas comment ça a pu m'échapper, parce que c'est récent, donc il y a dû avoir une brève là-dessus, une connerie sur... sur Yahoo Insolite, mais ça m'a échappé, donc j'étais peut-être en vacances, mais je dirais non, parce que je pense que ça serait...
Le gars, il pense que c'est tout, tu vois.
Non, c'est pas que je pense que c'est tout, mais je suis toujours à l'affût de ce genre de petites conneries, donc normalement, avec mes alertes et tout ça, je vois pas comment Trump, il aurait changé le billet, donc je pense que c'est compliqué de changer un billet aux États-Unis, je dis que c'est faux.
Bonne réponse, par contre... Obama voulait faire figurer sur les billets de 20 euros Harriet Tubman, une militante anti-esclavagiste et féministe noire.
Pas de 20 euros, de 20 dollars.
Il n'aurait pas eu 20 dollars. Et Trump avait refusé.
Ah, d'accord.
Et finalement, eh ben, imaginez-vous, Joe Biden va le faire. Voici la question qui départage. Le plus proche remporte la lutte finale. Avant Jean-Claude Van Damme, Jésus a multiplié les pains. Il en avait pris quelques-uns avant de les multiplier. Mais combien exactement?
Bon, qu'est-ce qu'on en sait?
Bah si, c'est dans,
la Bible. Dans la Bible.
C'est dans les évangiles, bien sûr.
Mais moi, je suis comme l'abbé Dubois, j'ai pas lu la Bible.
Donc il a pris des pains et il les a transformés en plus de pains.
Voilà.
C'est ça? Et combien il en a pris au départ pour le transformer?
Exactement.
Ah non, d'accord, je n'avais pas compris la question. D'accord. Combien il a pris de pains? Il en a fait combien au total? On peut pas savoir?
Maintenant, vous les divisez après par le nombre de...
par le nombre de quoi d'ailleurs, en fait, on ne sait pas.
C'est pas c'était quoi le coefficient, il les a multipliés.
C'était quoi le coefficient de multiplication?
Il faut une réponse.
Soyez précis dans vos questions, monsieur Bern.
Il y a combien de pains?
Sinon, avec David, on ne peut pas réfléchir.
Il y a combien de pains?
Moi, je dirais qu'il en avait deux.
Deux.
Moi, je dirais qu'il en avait un.
Eh bien, c'est encore une fois, David, parce qu'il y en avait cinq.
Oh, c'est pourri.
Le chiffre 5 est souvent reproduit dans différentes paraboles. Les cinq talents, les cinq vierges imprévoyantes.
Ah oui, bien sûr.
Un jour, on parlera de ces paraboles.
Oui, un jour. Mais pas aujourd'hui. En attendant, David savoure sa victoire avec ce même rictus qu'il a toujours. Et à la fois, c'est un jeu, il se dit, vous n'avez pas trop d'impression, mais en même temps, j'ai quand même gagné. Il dit, j'ai quand même gagné. Et ça, pour les auditeurs, ça reste.
C'est exactement
ce que... Mais parce qu'on est un peu pareil, je pense. Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une émission au thème un peu déceptif pour Stéphane qui avait taché tout son micel. On évoquait ces femmes qui ont tombé la robe. Mais en fait, c'était des nonnes.
Oui, Mathieu, mais c'était passionnant. Surtout Alexandrine de temps 5.
Ah oui, c'est incroyable cette histoire.
Qui a vraiment taché sa robe après.
Oh, vous allez loin, mais en même temps, j'aime ça. On remet ça demain, Stéphane, vous êtes dispo?
Non, bah, avec plaisir, Mathieu. Oui. Demain, en ce jour de rentrée scolaire, on réunit trois personnages qui ont ouvert une école. L'infirmière, Florence Nightingale, la pédagogue, Maria Montessori.
Et LeBron James, le basketteur star, qui lui aussi a ouvert une école pour enfants défavorisés dans la ville où il a grandi. Vous connaissez LeBron James, David? C'est un mec qui sait dunker, lui.
Oui.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.